Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'herbe? Tu oublierais l'Éternel qui t'a fait et qui a étendu les cieux et fondé la terre? Et tu tremblerais incessamment, tout le jour, devant la colère de l'oppresseur parce qu'il cherche à te détruire? Alors voici, je mets ma confiance dans le Seigneur, et ainsi que vous. Seigneur notre Dieu, comme la parole nous le dit, nous n'avons pas à craindre l'homme mortel. Nous croyons, Seigneur, que tu es un Dieu, un Père pour nous, et que tu nous gardes, quel que soit ce qui nous arrivera, ce qui peut nous arriver, nous sommes dans tes mains, Seigneur. Nul ne nous ravira de tes mains. Alléluia, Seigneur, merci, au nom de Jésus. Amen. Alors, vous savez que je vous ai parlé le précédemment, il y a le téléphone qui sonne, précédemment de l'homme libre. Et puis, j'ai expliqué qu'il y avait aussi l'homme obéissant, la femme obéissante. La vraie liberté est dans l'obéissance. La vraie liberté est en Jésus-Christ, comme Jésus. Et si vous voulez bien, nous allons adopter un troisième point. Obéir à qui? Donc il faut savoir que c'est à Dieu qu'on obéit. Et pourquoi? Parce qu'il est saint. Ésaïe chapitre 6, verset 3. Notre point d'ancrage de l'obéissance, ce n'est pas d'obéissance parce qu'il faut obéir. Nous ne sommes pas dans le fascisme, nous ne sommes pas dans la contrainte. Nous sommes devant notre Dieu et il est saint. Ésaïe chapitre 6, verset 3. Ils criaient l'un à l'autre, donc les archanges, ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint est l'Éternel des armées », donc des anges. « Toute la terre est pleine de sa gloire ». Voilà donc ce que les anges et les archanges proclament dans le ciel. Dieu est saint. Et nous allons aussi dans Apocalypse, au chapitre 5, 4 et 5, et nous voyons la même adoration auquel a assisté l'apôtre Jean, et sans doute l'apôtre Paul aussi, et à mon avis d'autres apôtres aussi. Alors dans Apocalypse, au chapitre 4, nous avons l'adoration, bien sûr, des vieillards et des archanges. Au verset 4, chapitre 4, verset 6, les quatre êtres vivants, donc les archanges, ont chacun six ailes, ils sont remplis d'yeux tout autour et dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, saint, 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 saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. C'est la même adoration que dans Isaïe.
Papa.
7 siècles avant. Et il y a une petite différence dans l'appellation. C'est qu'il est ajouté que le Dieu Tout-Puissant était, mais c'est un verbe qui veut dire a été, est et sera, et qui est, et qu'il insiste sur la personnalité, l'être suprême, l'être créateur, l'être parfait, de qui tous les êtres tiennent leur existence. Et qui vient, qui est venant. Et donc, celui qui vient, évidemment, c'est le Christ. Dans ce texte, lorsqu'on dit celui qui vient, c'est le Christ. Donc, le Christ est désigné comme le Tout-Puissant. Et rappelez-vous que dans Ésaïe, l'enfant né de la Vierge est appelé Père éternel, Dieu puissant, etc. Ce que les témoins de Jéhovah ne veulent pas comprendre, bien entendu. Alors, ou ne peuvent pas comprendre. Nous voyons au chapitre 4 d'Apocalypse, verset 9, « Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards, donc les prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament, se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir » la gloire, l'honneur et la puissance. En fait, Dieu a déjà la gloire, l'honneur et la puissance. Mais il doit la recevoir sur terre. Donc en fin de compte, quand Christ reviendra, il recevra honneur, gloire et puissance d'une manière claire, formelle, déclarée de toutes les nations et d'Israël. Et il en sera ainsi sur la terre comme au ciel, à l'avenue de Jésus-Christ. Et tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent, qu'elles ont été créées. Et si vous prenez Colossiens, chapitre 1, verset 15, vous voyez bien que tout a été créé. Le Christ est l'image de Dieu invisible, et tout a été créé par lui, en lui et pour lui. Donc nous sommes dans un thème constant. C'est la divinité de Christ, son égalité au Père, et sa toute-puissance. C'est le Pantocréator, c'est sa toute-puissance. Dieu est saint. Christ est saint. Au chapitre 5 d'Apocalypse. Chapitre 5. Voici des prières d'adoration qui nous conviennent pour nous lorsque nous sommes dans le secret de notre chambre, lorsque nous sommes en voiture, lorsque nous sommes dans la nature, lorsque nous sommes dans l'épreuve, surtout, lorsque nous sommes dans la joie. Verset 13, Apocalypse 5, 13. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les ai entendus qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur et la gloire et la force au siècle des siècles. Donc Christ, autant que le Père, est glorifié et démontre sa force. C'est fini. C'est fini ce temps de précarité depuis la mort et la résurrection de Jésus jusqu'à son retour. Le temps où l'Église subit des revers, des hérésies, des controverses, et où les hommes parfois s'insurgent contre Dieu, se moquent de lui. C'est fini. La force et la toute-puissance de Dieu sont pleinement manifestées. Et c'est en cela que les anges et les archanges et les saints et les saintes au ciel portent leur louange à Dieu. C'est en cela. Un jour, tout cela arrivera. Alors, si Dieu est saint, regardons dans l'Ancien Testament ce que disait Moïse. Lévitique 14, 1. Pourquoi est-ce que j'ai passé dans les prédications précédentes, de l'homme libre à l'homme obéissant et maintenant à Dieu saint? Parce qu'en fait, pour être obéissant, il faut savoir à qui. Et pour que ça soit clair, il faut cerner la personne centrale de Dieu. Sinon, on obéit pour des hommes, pour des chefs religieux, pour des systèmes, pour je ne sais pas quoi, pour des modes, des traditions. Et ça, des obéissances pareilles, il y en a eu plein. Il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de systèmes qui aiment bien ce genre d'obéissance. Mais ce n'est pas celle-là que Dieu demande. C'est à Dieu qu'on doit l'obéissance. Lévitique 14.1. Et ensuite, quand je serai un peu plus loin dans l'exposé, je vais vous montrer que ce qu'on apprend aux enfants dans l'éducation, c'est la sainteté de Dieu. C'est la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu qu'il faut leur enseigner, de façon à ce que cette sainteté les attire et qu'elle soit leur référence. Parce qu'autrement, il n'y a pas de référence. On peut enseigner un évangile sans une véritable référence. Si on est dilué, je me suis peut-être trompé, Lévitique 14.1, je vais trouver, vous savez, c'est des notes, parfois qui sont faites à minuit, 2h du matin, et ce n'est pas tout à fait ça. 19.1, Lévitique. Par Moïse, en 1430 avant Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras: soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne vous tournerez point vers les idoles, vous ne vous ferez point des dieux de fonte, des statues, etc. Donc, on est centré sur la personnalité de Dieu qui est sainte. Lévitique 19.1. Et on ne se fait point d'idole. Ben, il y a des autres idoles que les statues maintenant. Il y a les Pokémon. Il y a tous ces personnages créés qui apparaissent sur les tablettes, sur les jeux électroniques, etc. Ce sont des idoles. Je me suis assis une fois, j'écoutais la télévision, je regardais avec un dessin animé avec mes petits-enfants, et la puissance est en toi, la puissance est en toi dans les Pokémon. Est-ce que c'est pas le propre de Satan, ça, de dire ça aux enfants, pour qu'ils soient orgueilleux? La puissance est en toi. Et finalement, c'est ce qu'on essaye à tout niveau de laisser croire à l'homme. C'est Satan d'ailleurs. Alors, la sainteté et la puissance sont à Dieu. Point la ligne. Nulle part autre part. Tout ce qui dit autre chose vient de l'ennemi. Ok ? C'est extrêmement important de cerner cette réalité avec les enfants. Et il est clair que parfois, je rencontre des gens qui cherchent Dieu et qui me reçoivent bien, gentiment. Et puis je leur ai donné un évangile, etc. Ils lisent un petit peu, etc. Ils attendent que je leur donne des versets, ils attendent que je leur donne des conseils, que j'écoute leur misère. Et puis ils lisent très peu l'évangile ou parfois très mal. Et quand c'est cette situation-là, je ne suis pas étonné après qu'ils me parlent d'une vision, d'un rêve où ils ont vu quelque chose en blanc, etc. Qu'ils me parlent de toutes sortes de manifestations ou qu'ils vont dans la forêt, dans une petite chapelle, mettre un bouquet de fleurs devant les statues, etc. Je ne suis pas étonné, alors qu'ils me reçoivent bien, gentiment, et qu'ils ont reçu un évangile de ma part. Et c'est l'ambivalence de l'homme de ne pas découvrir réellement, radicalement, la sainteté de Dieu et la grandeur de Dieu. Ils sont toujours en image religieuse. Et quand je viens chez eux, ils restent religieux. Et c'est une grave, grave méprise. Il m'est parfois impossible, c'est indécrottable, de faire partir cela. Il faut parfois des années de patience, de prière, et puis tout d'un coup, il s'est passé quelque chose dans la vie de ces personnes, elles me rappellent, et elles ont soif de la parole de Dieu. Elles ont vu l'échec de leur démarche. Alors, je lis dans Lévitique 19, verset 31, « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Aujourd'hui, beaucoup de gens vont voir les médiums et fréquentent l'occultisme. Et il y a beaucoup plus de gens occultes qui parlent avec les esprits, qui parlent de toutes sortes, qui font de la divination, que de près d'être pasteur. Et les personnes consacrent énormément d'argent, énormément de temps à ces choses-là. 5 minutes au téléphone avec quelqu'un qui fait de la divination coûte très cher. J'ai déjà eu des personnes qui m'ont confié les sommes qu'ils devaient payer. C'était 100, 200 euros. Et ils travaillaient pour rien que ça. Il finissait par être drogué des avis des médiums au téléphone. Et ce n'est pas neuf. Ce n'est pas neuf. Et souvent, il y a un signe parallèle à cette espèce d'idolâtrie, d'enchaînement, d'esclavage. Il est juste dans Lévitique 19, au verset 28, « Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. » On voit l'extension des tatouages et des piercings, on le voit. Je suis sûr qu'en parallèle, il y a des relations avec le monde des morts, des relations avec le monde des esprits, des énergies dites positives, qui ne le sont pas d'ailleurs, parce que Hitler a commencé sa carrière comme ça. Tous les grands tyrans ont commencé comme ça. Et je pense, par exemple, vous savez, dans l'Apocalypse, il y a les 10 royaumes. Je n'aborderai pas ce sujet-là, il est trop complexe. Mais je l'ai étudié, si, dans une retraite, si j'ai les personnes en face de moi, je peux le traiter, mais les 10 royaumes ont été créés il y a quelques années, ils existent. Sur un site internet, on les trouve. Et ces 10 royaumes, le monde est divisé en 10 royaumes, ce sont des royaumes bioéthiques. Je pense que la nouvelle idolâtrie, c'est l'écologie. C'est l'écologie pour sauver l'homme, l'écologie pour sauver le monde, bioéthique. Et ces 10 royaumes orientent, et ils ont des porte-paroles, ils ont des gens efficaces qui font des films, des émissions, des conférences sur l'écologie. On en arrive à un point où il n'y a pas d'autre dieu que cela. C'est devenu central. Mais où est la sainteté? Où est la grandeur de Dieu, du Créateur? Alors, Romains, nous allons dans Romains, et vous allez voir que la sainteté de Dieu est manifestée à tous les hommes. Et c'est extrêmement important. Si elle est manifestée et que les hommes ne la voient pas ou ne veulent pas la voir, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un voile sur les yeux, sur l'âme, sur la conscience. Bien sûr, c'est la dépravation spirituelle due au péché. C'est une incompétence de l'homme à découvrir, à reconnaître la sainteté de Dieu. Mais, certains pourtant la reconnaissent. Donc il y a une quête qui est possible, il y a une quête, et on va y venir, comme base de l'éducation. Donc, dans Romains, il est dit clairement ceci, Romains chapitre 1, verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes, donc tout manque de foi et tout manque de sainteté, d'obéissance à Dieu, qui retiennent injustement la vérité captive. » Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Donc ici, Paul affirme que Dieu s'exprime, Dieu montre sa sainteté aux hommes. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Voilà, vous lirez la suite, elle n'est pas très, très brillante. La chose centrale pour amener quelqu'un à obéir à Dieu, qu'il soit jeune ou qu'il vienne à Christ à un certain âge, c'est la sainteté de Dieu, c'est sa divinité, c'est sa majesté, c'est sa grandeur. Sa toute puissance. C'est évidemment cela qui est central. On n'est pas chrétien centré sur soi. On n'est pas chrétien centré sur une église. On n'est pas chrétien centré sur un pasteur ou sur une chrétienne ou un chrétien. Sur un baptême, sur un rite. On n'est pas chrétien parce qu'on se sent bien quelque part, on nous a aidés, etc. On nous a aimés. On est chrétien parce qu'on reconnaît en Dieu la manifestation de sa sainteté. Et où la voit-on? Dans l'image du Dieu invisible, Colossiens 1,15, Jésus-Christ. Dans Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 3, il est dit que Dieu a parlé, dans les temps anciens, autrefois, par les prophètes, l'Ancien Testament, et ensuite, par son Fils qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Et il est l'image, de l'expression, la manifestation de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de sa substance. Donc il marque, pour celui qui regarde à lui, qui regarde Jésus, il marque l'homme de quelque chose qui est divin, il marque une impression à l'homme, il donne un langage, il donne révélation. Cette révélation, Jean, dans son évangile, chapitre 1, versets 1 à 18, le dit, nous avons contemplé la gloire de Dieu, nous avons contemplé Christ, et il nous a donné grâce sur grâce, vérité sur vérité. Et nous avons reçu de lui toute plénitude. Donc, Dieu et Jésus-Christ centralement manifestent la divinité. La sainteté éternelle de Dieu, qui est un seul Dieu, qui est Père, Fils et Esprit Saint. Alors, premier épître de Pierre, chapitre 1. Premier épître de Pierre, chapitre 1. Donc, je voudrais vous dire que si on veut éduquer quelqu'un à l'obéissance, chez un petit enfant et tout, il faut surtout pouvoir parler soi-même. Il faut le vivre. Il faut parler de la sainteté de Dieu. Et il n'y a rien à faire. Ce n'est pas avec des mots, des slogans. Il faut le vivre. Il faut y croire soi-même. Et il faut être assisté du Saint-Esprit pour pouvoir en témoigner aux enfants dans une classe d'école ou dans une église, école de dimanche, ou dans la rue, un enfant, ou dans la famille. Si on le vit de manière superficielle, charnelle, on ne pense pas qu'on puisse manifester cette sainteté à travers nous. Voilà. Lisons d'abord 1er épître de Pierre, chapitre 1, verset 15. Chapitre 1, verset 15. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Voilà la base. Ça, c'est le fil conducteur de l'éducation. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Hein? Lévitique 19, verset 2, auquel l'apôtre Pierre fait référence. Si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Donc, il faut enseigner à l'enfant que sa vie est un pèlerinage, est un chemin, et qu'elle se termine à un moment donné. Et il faut arriver au terme. Il faut y arriver. Et il faut mettre en œuvre la marche pour ce pèlerinage. Et dans cette marche, il y a l'invocation de Dieu comme Père. Comme Père. Le seul Papa, le vrai Papa, c'est notre Dieu des cieux. C'est son nom. Ce n'est pas seulement les chrétiens qui disent que Dieu est Père. Il y a des textes déjà dans Ésaïe, dans d'autres, chez d'autres prophètes, où Dieu est Père pour Israël. Quand j'étais catholique, je faisais une opposition entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et je considérais que, ah oui, le Nouveau Testament, c'est bien, parce que c'est, on a appris que Dieu était Père. Dans l'Ancien Testament, on reçoit tout qui punit, qui est méchant, qui tue, etc. Ce sont des clichés, mais stupides et faux. Alors, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, donc avec respect, déférence, au Dieu Saint, hein, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent et de l'or que vous avez été rachetés, la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Donc il parle ici, bien sûr, pour les Juifs avaient l'art d'aller au temple, de donner de l'or, de l'argent, d'acheter des animaux, s'ils étaient riches, même beaucoup de bœufs, etc. Ils dépensaient beaucoup d'argent, et ils mettaient dans le tronc. Et ils estimaient que plus ils donnaient dans le tronc, plus ils étaient de vrais croyants. Donc, nous avons cela également dans les noms juifs. En tant qu'ancien prêtre, je peux vous dire que sur 3 ans, j'ai refusé 75 000 euros, 75 000 euros d'argent pour acheter un ticket au ciel. J'ai refusé tout argent pour les messes de mariage, d'enterrement, toute messe, toute collecte. D'autre part, quand je visitais quelqu'un, il arrivait de rencontrer quelqu'un de vraiment brave et qui aimait Dieu, qui savait que Dieu était saint, qui avait capté à travers tout ce qu'il avait entendu à droite et gauche dans sa confession, dans son église catholique. Il avait capté la nature de Dieu, il avait capté à travers aussi la création ce qu'était Dieu. Et il était centré sur Dieu, il n'était pas centré sur l'église catholique, et les papes et les évêques. Il était centré sur Dieu et à sa mort, il n'avait pas besoin de me donner de l'argent ou de m'acheter un salut, que je fasse une prière pour lui. Il voulait simplement que je sois avec lui et que je prie avec lui. Comme certains chrétiens évangéliques aujourd'hui meurent, et que je peux le faire aussi. Il y avait une parité entre ces gens et ceux qui sont chrétiens évangéliques, une parité de cœur, d'âme et d'esprit. Mais c'était une exception, c'était assez rare, mais c'était quand même assez aussi fréquent, ça se répétait. Mais il y avait aussi les autres qui avaient mené leur vie de patachon, qui étaient durs et qu'ils investissaient pour le ciel. Donc après avoir fait n'importe quoi dans leur vie, je passerai les détails, même en pratiquant une religion officiellement, il demandait au prêtre l'extrême onction, donc le droit de vie éternelle, la place au ciel, parce qu'il n'était pas sûr qu'avec le baptême il l'avait. Comprenez bien. Mais oui, on enseignait qu'il y a des péchés mortels et péchés véniels, donc on est en balance tout le temps. On ne sait plus où on en est. Puis si on est catholique et qu'on assiste à des enterrements, on voit bien qu'il faut prier, il faut répéter le Saint-Sacrifice de la messe, le repos de l'âme du défunt. Mais si le baptême était si efficace, il n'y a pas besoin de faire le Saint-Sacrifice de la messe. Il n'y a pas besoin de prier, offrir de l'encens, de l'eau bénite sur la dépouille du mort. Et donc il n'y a pas besoin de prier pour le défunt et pas faire de messe pour le défunt. Si on est si sûr que ça, que le baptême de la vie est éternel. Mais je pense que quand on analyse tout, il n'y a pas d'assurance du salut dans tout ça. Et c'est la farfouille. Ça crée l'angoisse, ça crée l'hésitation. Et il y a des gens qui sont très futés. Ils appellent le prêtre au dernier moment pour avoir cette approbation divine venue du prêtre qui semble être le représentant de Dieu pour eux. Et il donne un champ, des maisons, etc. Et c'est là que j'ai vu que c'était la meilleure façon d'enrichir le système religieux romain. Et dans les religions juives, c'est la même chose. Et dans toute religion, c'est comme ça. Les hommes religieux ne sont pas stupides. Ils sont souvent très riches, même s'ils paraissent pauvres. J'ai déjà été effaré de voir certains. J'étais prêtre. Donc je ne dis pas ça par méchanceté. Certains prêtres qui paraissaient pauvres et qui avaient beaucoup de biens. J'ai été effaré de voir certains chrétiens évangéliques qui paraissaient très généreux et très modestes et qui mouraient avec énormément de biens. Ça m'effare. Ça, on dirait que Ananias et Zéphira courent toutes les églises, quelles qu'elles soient les confessions. Donc, il faut faire attention à cette vaine manière de vivre, parce que c'est de l'hypocrisie, c'est de la duplicité, c'est du commerce du salut. On n'est pas dans le commerce du salut. Au verset 19, il est dit « Nous sommes sauvés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. » Nous sommes sauvés par le sang de Christ. Donc, pas par quel que soit l'argent qu'on ait mis, ou pas dans l'offrande, ou par l'arrière au pasteur, au prêtre, ou à une institution religieuse, catholique, ou évangélique, ou protestante. Non, on est sauvé par le sang de Christ, c'est central. Parce que l'agneau est saint, l'agneau est sans péché, et l'agneau est venu pour prendre notre péché, pour que notre péché soit crucifié, châtié, il l'a porté. Il l'a porté et il a subi ce martyr, cet infâme martyr, pour que nous soyons disculpés, que notre péché soit pardonné. Et la deuxième chose, que nous recevions l'acte de justice déclaré innocent par son sacrifice, par la valeur de son sacrifice. Nous pouvons hériter le titre de innocent. Alors que nous sommes des pécheurs. Et nous recevons le titre d'innocent et nous recevons le Saint-Esprit pour être conduits dans la sainteté. Donc l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, est d'une valeur immense dans le salut. Dans la relation au Dieu Saint, unique, du ciel et de la terre. Il est le représentant pour nous, unique et inestimable, incommensurable, infini, saint du Dieu trois fois saint. Alors, regardons verset 20, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu. Nous croyons en Dieu par Jésus, parce que nous voyons la sainteté de Dieu en Jésus. Et nous croyons en Dieu qui a ressuscité des morts, son Fils, qui lui a donné la gloire, en sorte que notre foi, notre espérance repose sur Dieu. Le Christ Jésus a tellement été approuvé et démontré comme saint, ayant fait un sacrifice suffisant pour nos péchés, il a reçu la gloire, il a reçu les honneurs de la part des anges qui l'ont délivré du tombeau, il a reçu l'honneur de monter au ciel, d'être assis à la droite sur le trône. Il est ainsi reconnu comme l'objet de notre espérance, de notre foi. Et nous pouvons faire confiance à Dieu à cause de lui. Notre péché doit lâcher, doit céder. Notre révolte contre Dieu doit céder en voyant la nature du sacrifice de Jésus. Exode 15, verset 11. Exode, deuxième livre de la Bible, Moïse toujours, 1430 avant Jésus. Exode 15, verset 11. Je suis passionné par la sainteté de Dieu, mes amis. Je suis durement éprouvé par ma nature pécheresse, ma faiblesse, mon incrédulité, mes peurs, mes angoisses, j'en ai, mes tracas, j'ai beaucoup de tracas, j'ai beaucoup d'épreuves en étant un pasteur. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas comme je souhaiterais. C'est lourd à porter. Et il y a aussi des attaques de Satan. Mais je me réjouis en mon Sauveur Jésus. Chaque fois, je suis assuré de son amour. De son amour. De son immense amour pour moi. Et il m'encourage à continuer à vivre avec lui, par lui et pour lui. Je l'espère pour vous, frères et sœurs. Je l'espère infiniment pour vous. C'est le plus beau cadeau que nous puissions déjà avoir sur terre. Nous vivons par la foi en Christ. Exode 15, verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges ? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples l'apprennent et ils tremblent. Ah ah ! Et ça aussi, ça va arriver. Les peuples vont trembler. Les peuples vont avoir peur. Il faut qu'ils voient à travers nous, les amis, que Dieu opère sa sainteté. Il faut être les témoins de sa lumière. Il faut être témoin de ce qu'il est. Comme ici, les prodiges ont été accordés à ce peuple d'Israël. Je dirais, fait dégringoler la gloire, la fausse gloire de l'Égypte. Regardez la honte de l'Allemagne après la guerre, la honte des nazis. Ils ont tout fait pour détruire Israël, tout fait. Ils ont ravagé les familles, ils ont ravagé tout. Et, 3 ans après, Israël est créé. N'est-ce pas l'accomplissement de la volonté divine ? Et n'est-ce pas l'expression de la gloire de Dieu ? N'est-ce pas en cela qu'il a délivré le peuple ? Qu'il a dirigé son peuple vers la demeure de sa sainteté ? Encore aujourd'hui, dans quelques années, si Dieu nous accorde vie, nous verrons la manifestation de sa gloire. Il sauvegardera Israël, qui maintenant, militairement, n'est plus supérieur à son entourage. La technologie qui a été installée par les Russes et par d'autres alentour d'Israël est supérieure à celle d'Israël. Israël va devoir recourir, en Ézéchiel 38, à l'intervention divine de Dieu. Et en cela, elle verra qu'elle est l'objet de la miséricorde divine. Pour nous, chrétiens, pour nous qui avons hérité à la suite d'Israël, par Jésus-Christ, des mêmes promesses, faites à Abraham, nous avons aussi l'assurance d'être gardés par notre Dieu vivant. C'est un Dieu saint et puissant. Prenons Josué, chapitre 24. Josué, vers les années 1360, 1350 avant Jésus. Josué 24. Verset 19. Josué 24, verset 19. « Non, non, je crois que les personnes entendent bien ma voix. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas vos transgressions, vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel, que vous servirez de Dieu étranger, il reviendra vous faire du mal et vous consumera après avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, non, car nous servirons l'Éternel. Évidemment, on sait très bien que le peuple, à travers le livre des juges, va désobéir continuellement. Ils vont promettre de servir. Ils ont tellement peur de Dieu. Nous, avec Jésus-Christ, nous avons l'assurance d'un pardon et du don du Saint-Esprit. Si nous transgressons les commandements de Christ, il est clair que nous offensons la majesté de Dieu. Mais nous ne perdons pas notre salut. Nous ne perdons pas l'amour divin. Nous ne sommes pas sanctionnés éternellement. Il n'y a pas de péché mortel, comme l'enseigne l'Église où j'étais prêtre avant. Il y a bien sûr un péché qui n'est pas pardonnable, c'est celui contre les Saint-Esprit. Ça, c'est autre chose qu'il faudrait expliquer plus tard. Prenons le psaume 111. C'est 1000 ans avant Jésus. Le psaume 111. Verset 9.
111, verset 9.
Je vais prendre un peu plus tôt parce que je trouve que c'est un psaume magnifique. Je vais prendre au début. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Ah, nous y voilà. Par l'œuvre de l'Esprit Saint en nous, nous pouvons aimer toujours les œuvres de Dieu. Nous sommes attachés à voir les signes de la présence de Dieu, à voir ses actions dans nos vies et dans la vie des autres, et nous sommes attachés à le louer, à lui rendre gloire pour cela. Pas seulement à voir, à constater, mais à rendre grâce, à dire merci. Et les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges, l'Éternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent, il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice, toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple, il a établi pour toujours son alliance, son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. Voilà un des piliers de l'éducation pour les enfants, mes amis. L'éducation à la liberté et à l'obéissance, voilà. Par la parole de Dieu, nous pouvons. Il faut que les adultes et les jeunes gens et jeunes filles qui enseignent cela aux enfants le vivent eux-mêmes. Et il faut que nous protégeons nos enfants de tout milieu qui veut attaquer la sainteté de Dieu, qui veut attaquer cette crainte bénéfique, efficace, et qui leur donne de l'audace, de l'impertinence, de l'arrogance envers Dieu. Il faut les protéger, tout cela. C'est pour ça qu'il est mis dans la parole de Dieu, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Dans les Actes des Apôtres, quand Paul parle à ceux qui se convertissent, au début des Actes des Apôtres. Et on le voit aussi dans l'Apocalypse. Donc, nous avons des enseignements à travers la parole de Dieu pour l'éducation à la liberté et l'obéissance. Psaume 30, verset 5. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive les pleurs, le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Donc la présomption, ça. Hein? ça nous arrive à tous. Éternel, par ta grâce, tu as affermi ma montagne. Tu caches à ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Donc, il nous arrive d'avoir des comportements audacieux et impertinents vers Dieu, même en tant que chrétien. L'arrogance et l'impertinence font partie de la vieille nature. Nous sommes, dans la vieille nature, nous sommes malhonnêtes avec ceux que nous aimons et avec Dieu aussi. Lorsque nous sommes transformés, nous sommes obéissants à la parole de Dieu et au Saint-Esprit, cette impertinence, cette arrogance sont matées. Nous aimons que le péché meure en nous. Nous aimons voir le péché crucifié en nous. Nous aimons voir notre vie ancienne mourir et la vie nouvelle naître en nous. Nous sommes responsables de notre accueil de la vérité, accueil de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Ézéchiel 39, 620 à 580 avant Jésus. Ézéchiel 39, verset 7. C'est un peu plus loin que Jérémie, Ésaïe. Ézéchiel 39, verset 7. Il y a énormément de beaux passages dans Ézéchiel sur la sainteté et la gloire de Dieu. Quand on prend le temps de lire la parole de Dieu, surtout quand on est seul, de la méditer, on découvre des fortunes spirituelles. Et ça nous pousse dans la vraie vie chrétienne. La vraie vie spirituelle. Ce n'est pas dans une vie chrétienne auto-suggérée, auto-induite par nous-mêmes ou par des beaux chants, la bonne ambiance dans l'église. C'est une vie chrétienne conduite par la parole, par l'Esprit Saint qui parle dans la parole. Ézéchiel 39, verset 7. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël. Je ne laisserai plus profaner mon saint nom, et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. C'est plus le Saint d'Israël. Il y a une progression dans le verset. En Israël. Et clairement, dans les chapitres qui suivent, il est annoncé le retour de Dieu à Jérusalem, sur le mont du Temple. Les nations seront, je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Il faut faire attention parfois aux nuances dans les versets. Et il faut se choisir des bonnes traductions fidèles à l'hébreu et au grec. Hein. Pas des traductions trop arrangées, plus faciles à comprendre, soi-disant, et puis qui ont balayé le sens des versets. Attention à la facilité. Qui est parfois annoncé dans certaines traductions, certaines éditions modernes aujourd'hui. Osée chapitre 11, verset 9.
Avant.
Osée chapitre 11, verset 9. Donc c'est un peu plus loin hein, que Ézéchiel et Daniel. Osée chapitre 11, verset 9. Ben déjà, je vais prendre au verset 7. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. Et on peut parler aussi des chrétiens, hein, souvent, de nous. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Les prophètes rappelaient Dieu, rappelaient l'existence de Dieu. Et il disait, Dieu est vivant. Et il disait, oh, je n'ai pas besoin de vos sacrifices, je n'ai pas besoin de tout ça. C'est pas ça que je veux, c'est la vérité dans votre adoration, après les sacrifices. Et donc, mais aucun Dieu ne l'exalte, le glorifie. Aujourd'hui, il peut arriver que certains pasteurs, certains évangélistes rappellent la sainteté de Dieu, rappellent que il faut exalter Dieu, le mettre à la première place. C'est ça, l'exalter. Et dans l'éducation, la réussite d'une éducation chrétienne n'est pas forcément assurée. Il faut tout de même le faire. Nous devons mettre Dieu à la première place et l'exalter. L'enfant peut s'en écarter. Ce n'est pas à nous de garantir les résultats. Parfois, les enfants rejettent ce qu'on leur a annoncé. Et nous ne pouvons rien y faire. Mais il faut, dans notre tâche de parents, de chrétiens, de pasteurs, de maîtres d'école ou maîtres dans les écoles du dimanche, exalter Dieu. Et même si les enfants ont eu tendance dans la semaine, ou les adultes dans l'assemblée, à s'éloigner de Dieu, il faut les rappeler vers le Très-Haut. C'est la vocation du prédicateur et de l'enseignant. Il doit faire son boulot. Une tâche difficile. Luc 1, 49. Une tâche ingrate, parfois, dans certaines églises, dans certaines époques que vit une église, et parce qu'il y a des bonnes époques dans une église, et puis parfois il y en a des lamentables, et dans la vie des pasteurs aussi, hein. On n'est pas toujours brillant. Luc chapitre 1, verset 49. Qu'est-ce qui motive Marie à exalter Dieu? Qu'est-ce qui la motive? Et c'est un exemple pour nous. Luc 1, 46, « Mon âme exalte le Seigneur. » Donc, elle le met à la première place. « Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Verset 47. « Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » Deux choses dans le cœur de Marie. Son humilité, absence d'orgueil. Deuxième chose, le sens du service de Dieu. Pas seulement des paroles, le servir Dieu de manière dans toute sa vie. Et c'est clairement ce que Jésus dit. Celui qui me donne sa vie la sauvera, celui qui veut la conserver pour lui-même la perdra. Ça revient au même. Alors, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuses, heureuses. Les générations où? Dans le royaume de Christ, dans le royaume de Dieu. Là, ressuscitée, elle sera reconnue pour ce qu'elle a fait avec Jésus dans l'époque où elle était avec les apôtres. Mais là où on l'a mis en statue avant le retour de Jésus, là où on l'a exaltée avec des bougies et des candélabres, etc., et de l'encens et des beaux habits, ça c'est pas ça qu'elle l'a voulu. C'est pas ça pour ce qu'elle se dit, la bassesse, elle dit la bassesse de sa servante. Elle n'a pas voulu de glorifier et élever. C'est pas ça, quand les générations me diront bienheureuse. C'est pas cette idolâtrie-là qu'on a fait d'elle. Je vais vous dire une chose, c'est une aparté. Étant étudiant au séminaire, j'avais soif de connaître beaucoup de choses pour pouvoir les enseigner plus tard. Je savais que j'étais pas à ma place au séminaire. Je savais, mais je ne voulais pas abandonner, je ne savais pas où aller. Je n'avais pas connu d'évangélique. Je connaissais pas suffisamment la Bible moi-même pour naviguer tout seul. Et pratiquement, j'ai vu dans la bibliothèque, il y avait des milliers, dizaines de milliers de volumes, j'ai pu voir que deux conciles à Éphèse, 321 et 341, décrétés par l'empereur, le troisième empereur de l'Empire romain, qui se disait chrétien, qui avait été nommé ec episcopos, ça veut dire évêque parmi les évêques, il avait le droit de déclarer l'ouverture d'un concile, réunion des évêques, des responsables d'église, et de diriger le dogme, des modifications au dogme. Il a pris toutes les prières d'Artémis, reine du ciel, médiatrice, etc. C'était pour Artémis, Diane en latin, et il a tiré le titre, et il a mis Marie, mère de Dieu. Et les évêques se sont disputés, il y en a qui se sont battus, il y avait des soldats dans la pièce, tout était fermé à clé, tout était fermé, il y a un évêque qui est mort de ses blessures. On a décrété Marie, mère de Dieu, dans ces conditions-là, sous l'ordre de Rome, pour avoir une idéologie parfaite, une idole parfaite. Artémis travestie en Marie, mère de Dieu. Et quand vous regardez la déesse Artémis dans les statues de cette époque, avec les yeux noirs, Et que vous l'habillez en blanc avec une couronne, ça fait la Vierge Noire que vous trouvez dans des cathédrales et toutes sortes de processions dans différents pays. Ce n'est qu'une transposition d'Artémis et d'idolâtrie. Marie n'a jamais cherché à être bienheureuse de cette manière-là. Gare à ceux qui l'ont travestie et qui ont repris toutes les doctrines d'Artémis pour lui coller sur le dos. Et gare à ceux qui ont décrété qu'elle était mère de Dieu. Jusqu'au concile de Nicée et de Chalcédone, elle était mère de Jésus. Elle a enfanté Jésus, qui est Dieu, c'est différent. Voilà, ce sont des choses que j'ai lues en parfouinant, en passant beaucoup d'heures, des centaines d'heures dans les bibliothèques. Et je remercie le Seigneur, ça peut me servir aujourd'hui pour vous parler. Donc, Luc 1, 49, nous voyons que Marie exalte Dieu. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Son nom est saint. Voilà ce que nous devons enseigner à nos enfants. Et ce n'est pas Marie qui va enseigner aux enfants. Je n'ai rien contre quelqu'un qui croit en Marie. Mais je sais qu'il s'égare. Je sais qu'il s'égare. Je le sais pertinemment. Dieu n'a jamais voulu ça. C'est les hommes et un autre qui est derrière les hommes qui a voulu ça. Alors, nous allons continuer dans Marc chapitre 1, verset 24. Marc chapitre 1, verset 24, un peu avant Luc. Marc chapitre 1, verset 24. Je suis un petit peu désordonné dans ce que je dis. J'espère que vous comprenez bien quand même tout de même où je vais, pourquoi je parle. C'est que la sainteté de Dieu est centrale. Seul lui est saint. Il n'y a pas des saintes comme Marie ou Saint Joseph ou Sainte Anne, Sainte Gudule, etc. Sainte Claire. On n'adore que Dieu seul, sans or et sans argent. Et tous nous l'adorons et nous reconnaissons notre bassesse. Et notre condition de serviteur et de servante de Dieu.
La devise de Saint Boniface, Dieu seul, c'est bien trouvé.
Mmh. Alors, nous voyons dans Marc chapitre 1, verset 24. Que
qu'a-t-il entre nous et toi ?
Les démons reconnaissent la sainteté de Jésus. Donc, je commence au verset 23. Il se trouva dans leur synagogue, nous sommes à Capernaum, un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, et était là peut-être depuis 20 ans, ou de deux jours dans la synagogue, en train de prier. Mais je vous garantis qu'il y a parfois dans les églises des gens qui sont là depuis longtemps et qui proclament la sainteté de Jésus et qui ne sont pas avec Jésus. Ça, j'en suis sûr. Un homme qui avait un esprit impur qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Jésus menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Donc, nous voyons au point de départ une chose incroyable, c'est que Satan connaît la sainteté et proclame la sainteté de Jésus. Satan sait que Dieu est saint. Et il tourne alentour de lui pour accuser Job, etc. Donc, il a toujours la connaissance de la sainteté de Dieu. Et même s'il a voulu être au-dessus, il sait qu'il est bien plus bas. Il est déchu de toute sainteté. Mais dans son arrogance, dans son orgueil, il ne veut pas arrêter d'entraîner les hommes et les anges dans la perdition. Il veut pas aller en enfer tout seul. Et quand il se trouve en face de Christ, il est confondu. Il ne peut que reconnaître la sainteté. Et je pense que quand on est serviteur de Dieu, parfois, on est confronté à des cas de possession. Et je vous donne un cas où j'étais au Bénin, dans une église, 2500 personnes, des chants formidables, chorales formidables. Et je fais une douzaine d'églises à visiter et prêcher. Et où il fallait prêcher, et pratiquement dans cette église, j'ai demandé à plusieurs reprises à l'évangéliste qui m'entraînait là, pourquoi tu m'as conduit là, tu vas me conduire là, plusieurs jours. Mais parce qu'il y a des problèmes spirituels, les gens sont abattus, ils ne sont pas bien, etc. Et donc, je ne voyais qu'une chose, quand je rencontre des gens abattus et alanguis, des gens qui ne dorment plus, des choses pareilles, il faut jeûner et prier. Évidemment, c'était tout un voyage avec de lourds fardeaux. Il fallait prier et jeûner constamment, en tout cas très peu manger à certains moments. Et il fallait passer des dizaines d'heures sur 24 heures, il fallait passer 15 à 18 heures dans la prière et la parole de Dieu. Le reste, c'était pour sur le mauvais chemin, etc., les routes avec des trous, etc., arriver à temps au culte, etc., rencontrer les chrétiens. Mais disons que c'était les trois quarts de la journée étaient consacrés à la mise en préparation devant Christ, en Christ. Parce que comment aller faire dans un pays où le vaudou a été fondé, où il y a des sorciers partout? Dans cette église, donc, j'ai prêché la première fois, après les chants et tout, et j'avais l'impression qu'il y avait de l'occultisme dans l'église. Je ne savais pas le définir, mais je sentais ce poids. Et je le voyais à travers deux des pasteurs qui étaient là, qui n'avaient plus de ressort, qui étaient comme apesantis, qui avaient 100 kilos sur les épaules. Le pasteur principal n'étant pas là, c'était déjà un problème qu'il ne soit pas là. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu une peau de banane, comme on dit, un truc du diable, ou enfin Dieu l'avait permis, mais qu'il ne soit pas là. Donc j'ai prêché, et puis on m'a demandé qu'est-ce que je pensais, on m'a fait mettre quelque chose dans le livre d'or. J'ai dit, je me pose la question si Balaam n'est pas dans votre église. Alors, en sortant, j'ai rencontré une jeune femme qui a voulu absolument me parler et dit, pasteur, je voudrais vous dire que depuis des années, je ne dors plus. Il y a quelqu'un qui me visite et qui me propose à manger. Mais comme elle ne mangeait pas, elle n'était pas tombée dans la boulimie ou l'alcoolisme et tout ça, elle n'obéissait pas à ces démons-là. Elle se contrôlait. Je dis, vous n'êtes pas jamais tombé là-dedans? Non, non, non. Je n'ai jamais obéi à ces voix-là. C'est très bien, mais vous n'arrivez pas à dormir. Je dis, alors on va prier. Les deux pasteurs qui étaient là disent, on a déjà prié, c'est pas la peine. Je dis, cette dame s'adresse à moi, je ne suis pas venu pour l'ignorer, je vais prier avec elle. Le lendemain, en arrivant au culte, elle avait bien dormi, elle n'avait plus de voix qui lui parlait. Et évidemment, j'avais un signe pour commencer à être présent dans le culte, écouter les chants, mais pendant ce temps-là, méditer ce que j'avais entendu de la part de cette femme, et pour prêcher. Bien que ma prédication était prête, je savais dans quel contexte j'étais, plus clairement. Et ce qui est arrivé, c'est que c'est quelque chose que je n'ai pas désiré, pas voulu. Deux personnes dans l'assemblée avaient des yeux comme des phares halogènes et cherchaient à m'envoûter, m'hypnotiser. C'était assez impressionnant. Parce que pour les autres, elle paraissait normale, mais pas pour moi. Et elle cherchait à me faire dire des mauvaises choses. Elle me poussait à dire même des injures contre Dieu, des choses fausses, bibliquement. Je le sentais, je le ressentais. Mais j'étais extrêmement ferme et paisible. J'étais préparé dans la prière. Elle n'a pas eu d'autorité. Les phares, si vous voulez, dans les yeux d'une des deux femmes se sont arrêtées, se sont éteintes, elle a retrouvé un regard normal. L'autre pas. Et pratiquement, à la fin du culte, je n'ai pas pu aller trouver avec les anciens, le pasteur principal n'étant pas encore là. S'il avait été là, j'aurais été trouvé cette femme. Mais avec les deux autres pasteurs-là qui n'étaient pas assez dans le combat spirituel, je ne pouvais pas y aller seul. Donc j'ai préféré inviter le pasteur principal. Là où je logeais, j'étais gardé et protégé. Parce que dans ce monde où il y a la sorcellerie, attention. Et il y avait des gardes devant ma chambre et devant la propriété. Et pour partir aussi et au culte. Et pratiquement, ce qui s'est passé, c'est que le pasteur principal m'a dit, c'est la 13e et 14e sorcière qui sont venues pour détruire l'église. Nous avons eu beaucoup de souffrances dans notre église, mais nous continuons. Je dis, pasteur, vous avez 2500 personnes, faites des groupes de 10, 250 groupes de prière. Jeûnez et priez. La victoire est à vous. La victoire est à vous. Je l'ai proposé à vos deux collègues, ils ont dit on a déjà assez prié. J'ai dit pasteur, j'espère que vous n'allez pas dire ça, que vous avez déjà assez prié. On n'a jamais assez prié. Qui ont prié, les amis? Le Dieu trois fois saint, tout puissant, créateur de l'univers. Le créateur, si on s'adresse à lui pour sauvegarder la paix dans son église, pour que des gens comme ça, qui viennent adorer Dieu et qui n'aiment pas Dieu, comme là dans la synagogue de Saint-Nazareth, de Capernaum, eh bien, ils n'auront plus de place, ils partiront. C'est pour ça que des Ananias et Zéphira, dans l'église, acte 5, sont morts. Parce que l'autorité de Christ était là. Ce n'est pas Pierre et Jean qui ont maudit ces gens. Ils n'avaient pas de place dans ce peuple de Dieu. Pourquoi ils voulaient s'y introduire? Et vous avez les fils de Sceva, dans les actes des apôtres, à un moment donné, ils ont voulu exorciser des gens possédés et ils se sont trouvés défenestrés, jetés en lambeaux en guenilles. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient aucune relation avec le Dieu trois fois saint, le Dieu vivant. Ils n'avaient aucune adoration véritable, ni prière, ni jeûne. Voilà, la sainteté est nécessaire dans le peuple de Dieu. La sainteté est nécessaire d'inviter parents. La sainteté est en Dieu. Plus on reconnaît la sainteté, plus elle descend sur nous, plus elle nous est donnée. Nous n'en sommes jamais propriétaires, mais nous sommes sous la sainteté de Dieu. Nous sommes couverts par la sainteté du Saint-Esprit, la sainteté de Christ, la sainteté du sang de Jésus. Jean 17, 11, il paraît qu'il faut que j'arrête, donc je vais bientôt arrêter. Je continuerai la fois prochaine. Jean 17, 11. Père Saint, regardez la parole de Jésus, qui est Saint lui-même. Père Saint, 17, 11. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. C'est la deuxième partie du verset 11. Si Jésus lui-même dit cela, c'est pour que nous nous adressions ainsi. Père Saint, nous sommes sous le nom, ton nom. Nous avons été donnés à Jésus par toi. Nous voulons être un en Christ avec toi. Voilà la prière qu'il faut déduire de ce verset. Nous voulons être en Christ. Nous voulons être un avec toi. Tu nous as donné à Christ, nous retournons vers toi parce que nous appartenons à Christ et que Christ est uni à toi. Les amis, c'est un trésor que d'être en Christ. Et dans 14.3, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. 14.3, Jean 14.3, là où je suis. Je suis, c'est le nom de Dieu. C'est la Trinité. Donc là, plongé dans la Trinité, immergé dans l'amour divin, dans sa sainteté, je veux que vous y soyez aussi. Voilà. Et je vous ai préparé cette place. Quand on a cela, on doit le transmettre aux enfants. C'est la meilleure des places qu'ils puissent envier dans leur vie. C'est la meilleure des places qu'un homme et une femme peuvent désirer. C'est le vrai cadeau que Dieu a donné. Et il faut le vivre pour pouvoir montrer à nos enfants, à nos petits-enfants, que c'est le vrai trésor. Et que tous les attrape-nigauds, tout ce qui est fait pour distraire les enfants d'aujourd'hui, n'a pas de valeur. Ils doivent comprendre la vanité des choses. Mais ce n'est pas en leur interdisant d'abord, c'est en montrant la suprématie de Dieu, sa majesté. Il faut le vivre soi-même. Si vous exaltez le Seigneur, vous l'admirez, votre visage, vos paroles seront remplies de l'Esprit Saint et l'enfant restera marqué, même s'il s'en écarte pour 20 ou 30 ans ou 5 ans, 40 ans, il y reviendra. Nous sommes des cruches en terre cuite. une paroi épaisse. Nous ne sommes pas de cristal. Et dedans, une lumière divine a été déposée, c'est Christ. Vous n'avez qu'à lire 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 6 à 8. Et vous verrez que celui qui a accepté Christ, il y a un trésor déposé en lui. Mais ce n'est pas un vase de cristal, nous sommes imparfaits. Mais à travers ces parois épaisses, la lumière éternelle de Christ peut traverser. Et quand le vase est brisé, la lumière explose, comme à l'époque où Gédéon a vaincu les Amalécites. Les vases ont été cassés, il n'y avait pas d'épée physique, il y avait l'épée de l'Éternel. L'épée de l'Éternel, c'est Christ dans nos vies. Plus nous sommes brisés, plus nous diminuons, plus il grandit en nous, comme les vases cassés de Gédéon. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Que Dieu vous accorde la paix et la joie ce soir et toute la nuit. Relevez-vous, mettez-vous à genoux. Adorez le Seigneur. Vous êtes gagnant. Et tout le monde autour de vous est gagnant, si vous êtes gagnant. Vous partagerez votre gros lot que vous aurez gagné à la loterie céleste, pas la loterie nationale. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.